Semaine d'éducation. Contre les discriminations.
Sur Jet FM 91.2.
S-E-C-D. Au CSC Château de Rezé.
Amadou,
Déborah,
Samy,
Rebecca,
Farah,
Rani,
Ingrid,
Mirage.
Bonjour et bienvenue dans l'émission du Sonolab. Aujourd'hui, nous sommes en direct du quartier Château à Rezé. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Alors, je ne suis pas toute seule pour présenter cette émission. Je suis avec
Déborah,
Miral,
Farah,
Lucie,
Ranim,
Amadou.
Bonjour à vous. Alors, si vous êtes avec moi, c'est parce qu'on a fait des ateliers ensemble pendant les vacances. Est-ce que quelqu'un peut nous dire le titre des ateliers qu'on a fait ensemble? Est-ce que vous vous souvenez du titre?
Oui, alors on a fait des ateliers médias contre le racisme.
Voilà, tout à fait. Et donc, Miral, effectivement, le thème qui nous a réunis, c'est le...
racisme.
Voilà. Du coup, je vous propose qu'on avance un peu dans le quartier. Et puis peut-être, vous allez décrire votre quartier aux auditeurs et aux auditrices. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Ok, et bien c'est parti, on avance.
On est devant le CHC Château.
Bah, il est assez grand, on dirait un bâtiment, avec plusieurs salles.
C'est un bâtiment d'école. À côté du lycée Jean Perrin.
Un endroit qu'on peut venir en famille, entre amis, pour s'amuser. Là, je fais de la radio, mais sur le château de Rezé, ils peuvent faire des stages, comme le stage de radio, des lotos, comme le loto qu'il y aura jeudi. On a fait les sorties de journée avec le pique-nique au zoo et tout ça. On ne peut pas s'ennuyer, en fait.
Ok, alors pendant qu'on avance pour décrire une autre partie du quartier, est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui voudrait expliquer qu'est-ce qu'on a fait le premier jour des ateliers ensemble?
Eh bien, on est allé dans un studio Jet FM et on est allé dans une salle, un studio, où on était en train de débattre un truc comme ça. Bah, tout ce qui est racisme et aussi bah, on était en train de parler de Samuel Paty et bah, de l'histoire de la caricature, etc.
Bah, dis donc, t'as beaucoup retenu. Et alors quand on a parlé de tout ça, est-ce que tout le monde avait la même avis? Est-ce que tout le monde était d'accord?
Bah, on pensait qu'il y avait des personnes qui devaient être plus punies que d'autres dans la façon dont ils parlaient du racisme, enfin dont ils agissaient avec le racisme. Avec les personnes de couleur.
Et puis, c'est vrai que par rapport à la caricature, bah, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte quand on a discuté de Samuel Paty?
Bah, on avait dit qu'il y en avait qui étaient d'accord, mais pas trop. Il y en a qui étaient contre. Et il y en a qui avaient dit, bah, on fait ça juste pour rigoler.
En tout cas, vous étiez tous d'accord pour dire qu'il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mais par contre, il y avait un petit truc sur le fait que vous disiez que... Enfin, il y en avait qui pensaient dans le groupe que... quand on faisait une caricature en lien avec la religion, eh ben on méritait d'être puni. Est-ce que je me trompe?
Non.
Et donc, du coup, après ça, on s'est dit qu'on allait rencontrer qui pour nous aider à répondre à nos questions?
À Yacine.
Mmh. Il fait quoi, Yacine?
Il fait des dessins de presse.
Alors, avant de rencontrer Yacine, puisqu'on s'est posé plein de questions, merci Farah, c'était très clair et tu as très bien retenu tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Qu'est-ce qu'on a fait le mardi?
Du micro-trottoir. Et on avait posé des questions aux personnes, aux passants.
Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, on en a discuté tout à l'heure, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte quand on a posé les questions aux gens dans la rue?
Que les personnes, ils disaient « je sais pas, je le suis pas ».
Ouais, du coup, on peut dire que c'est quoi comme émotion qu'ils ressentaient?
De la peur, un préjugé, comme si on pensait que eux ils étaient racistes alors que pas du tout.
Comme si on posait une question pour les racistes, spéciale pour eux.
Ouais, c'est ça, ils ont compris en fait qu'on leur demandait, enfin qu'on pensait qu'ils étaient racistes et qu'ils devaient nous expliquer pourquoi c'était le raciste puisqu'ils étaient racistes. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait pour le micro-trottoir qu'on a fait le mardi après-midi?
On l'a modifié.
On l'a modifié pour que les gens y comprennent mieux la question.
Qui a monté le micro-trottoir?
Moi.
Amadou.
Et qui d'autre?
Déborah.
Et la troisième personne qui n'est pas là?
Ingrid.
Voilà, c'est Déborah, Amadou et Ingrid qui ont monté tout le micro-trottoir par eux-mêmes. Ils ont été super forts.
Est-ce que les autres jouaient au loto.
Ouais, voilà, pendant que les autres, ils jouaient au loto et qu'ils gagnaient des lots. Bravo, bravo, bingo, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vous va si on propose aux auditeurs et aux auditrices d'écouter ce fameux micro-trottoir?
Oui.
Et tout de suite, nous écoutons le micro-trottoir. Ne quittez pas notre chaîne.
Si vous deviez donner une définition du racisme, ce serait quoi?
C'est une grosse question. C'est de ne pas accepter la différence de l'autre, en fait. Je pense que c'est ça, le racisme. C'est sa pure forme, en fait.
Pour moi, le racisme, c'est une discrimination. C'est une forme de discrimination.
Ça serait quand on n'a aucune tolérance pour les autres.
Je ne saurais pas comment expliquer, mais ouais, qui ne respecte pas. Qui va insulter les personnes, on va dire, de couleur.
Ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, tout court.
Juger une personne par rapport à sa provenance ethnique.
Ah, le racisme, c'est une vieille arbre avec des mauvaises racines.
Pour moi, ce serait de l'ignorance, de la bêtise.
Alors pour moi, le racisme, c'est quand on catégorise, on met des personnes à tort dans des cases par rapport à leur origines ou par rapport à leur physique.
Ça fait partie de la grande famille des discriminations pour moi. Et dedans, ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui sont moins bien que les autres, qui valent moins que les autres.
Moi, je pense que les gens qui sont racistes, c'est ceux qui n'acceptent pas les étrangers en France. Voilà. Qui pensent qu'ils travaillent pour eux, que les étrangers ne font rien, enfin voilà quoi. Alors qu'ils travaillent, enfin...
Je me dis, de toute façon, ça a toujours existé. C'est pas demain que ça s'arrêtera, malheureusement, ça a toujours existé. Les gens ont du mal à vivre ensemble, et puis c'est tout.
Ça, le mot, il n'est pas assez exact ici en France. Par exemple, pour moi, le racisme, il est lié à une race. Et pour moi, il n'y a pas de race. Tous les humains, il n'y a qu'une seule race, qui est la race humaine, c'est tout.
Deuxième question, c'est avez-vous été victime ou témoin d'actes racistes?
J'ai été victime. C'est moi, j'ai travaillé dans une grande surface où j'accueille plusieurs types de clients. Donc du coup, effectivement, j'ai été victime de racisme.
Victime personnellement, non. Témoin, oui, des fois, dans des réflexions vis-à-vis de gens par rapport à leur couleur.
Alors, plus peut-être des regards que j'ai pu voir dans le tram ou des choses comme ça.
Non, du tout.
Non, du tout.
Comme par exemple dans le bus, où une fois, il y avait une dame qui avait insulté de sale noire une personne qui lui avait rien fait. Et du coup, ça m'a pas fait du bien, quoi.
Ça, c'est tous les jours, ça. Hein. Surtout les métiers que nous, on fait comme ça. Les gens peuvent te voir, ils t'aiment pas, ou soit... il a une idée... bizarre envers nous, tu vois. Ça arrive tout le temps.
Dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, il y a du racisme un peu partout, mais...
Peut-être comme beaucoup d'entre nous, oui, j'ai été témoin. Par contre, j'essaye de ne pas réagir avec de l'agressivité en face de la personne, parce que le racisme peut être aussi de la peur.
Pas vraiment, pas directement, mais mon fils à l'école, voilà, et qui venait en fait de l'Afrique. Et à l'école, ça lui disait souvent, mais t'es pas d'ici, t'es pas né ici, t'es pas blanc.
Ouais. Oui, j'étais victime. Un jour, il y a des gens qui m'ont tapé. J'ai déposé plainte et ma plainte n'a jamais été reçue.
C'est des exemples au quotidien dans les transports. Ça peut être un peu tout. Actuellement, avec le port du masque, des personnes, si c'est une personne de couleur qui va être jugée par sa couleur et faire le lien entre sa couleur et le non-port du masque, ça arrive souvent, malheureusement.
Alors, moi-même, oui, sur moi. Pourtant, je ne suis pas typée, hein, mais sur moi, oui. C'est déjà arrivé, on m'a traité de sale arabe. Et oui, mes enfants aussi. Surtout mon fils qui est typé, donc du coup, ça a été un bougnoul.
Alors moi, j'ai jamais été victime en tant que telle, mais par contre, j'ai vu des actes racistes.
Témoin dans les médias, quand je regarde la télé, parfois. Donc moi, je saurais jamais vraiment ce que c'est d'être racisé, comme on dit. C'est-à-dire, je peux le demander à des gens qui ont déjà été victimes. Je peux m'imaginer, je peux me mettre un peu à leur place, parce que voilà, on peut faire preuve d'empathie.
Est-ce que vous vous sentez bien en France?
Oui, je me sens bien, enfin, pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas.
Oui et non, parce que bon, il y a des personnes qui sont pas très, dont des personnes dans la politique et ça dépend en fait de certaines opinions de certains quoi.
Moins que quand j'étais plus jeune. On me dit passéiste, mais c'est vrai que il y a des problèmes actuels qui font que bah c'est plus compliqué.
Oui, je me sens bien la plupart du temps. Je suis assez chanceuse d'être en France pour pas mal de droits qui peuvent exister. Mais je pense qu'actuellement, il faut défendre ces droits que nous pouvons avoir et qu'ils sont tous un peu en danger et que nous n'avons pas tous les mêmes droits selon parfois, en effet, notre couleur de peau, notre âge, notre sexe, notre religion, etc., etc.
Oui, là, je me sens très bien en France parce que là, ils sont en sécurité.
Oui, bien sûr, la France est un pays qui accueille tout le monde, on se sent très bien ici.
Ça va dépendre du moment et du lieu.
Moi, je me sens plutôt bien en France, mais je trouve qu'il y a une montée de propos racistes, de propos discriminatoires. Et ça, ça me rend malheureuse et ça me révolte.
Ben moi, oui, mais c'est facile à dire pour moi parce que j'y suis née.
Mais malheureusement, c'est ça, c'est la violence maintenant. Et puis, ben, il suffit que c'est une personne de couleur. Et ben, pour avoir le dessus, on va jouer sur la couleur de la personne.
S-E-C, semaine d'éducation. S-E-C, contre les discriminations. Sur GTFM 91.2.
On est de retour sur JetFM 91.2. Alors là, on est sur une autre place. Alors, qui peut nous dire quelle est cette place?
François Mitterrand.
Ok. Et qui veut la décrire?
Moi. Alors, on a une grande rue. Après, on a un boucher, une boulangerie, un Lidl. On a plein de magasins. On a même une laverie. On a un bar, une poste.
Un kebab. Une pharmacie.
Une pharmacie.
Le tram. Une fontaine.
Et l'ambiance, c'est quoi l'ambiance ici un peu?
La maison des services aussi on a.
Beaucoup de bruit, il y a plein de gens.
Il y a plusieurs jeunes qui se promènent là.
Est-ce que les gens ils sont tous de la même couleur? Est-ce qu'ils se ressemblent les gens ici?
Non.
Ils sont comment ici les gens?
Bah ils sont mix.
Ils sont quoi?
Mix. Il y a plusieurs personnes et même si on serait dans une autre rue, on serait toujours mix. Hein.
Il y a tout le monde, il y a de toutes les religions, de toutes les couleurs.
Et vous traînez souvent sur la place?
Oui. Non, tous les jours.
Tiens, regardez, qui arrive?
Ingrid. Bonjour Ingrid.
Salut Ingrid. Alors, on a commencé à enregistrer l'émission, tu veux dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices?
Bonjour.
Tu nous as vu par la fenêtre de chez toi?
Non.
Je sais pas, parce que tu nous rejoins d'un coup comme ça, alors...
Non, c'est que ma mère, elle avait prévu un truc, sauf que je savais pas. Et du coup, bah, j'ai pas été à l'heure.
D'accord. Bon, c'était bien au moins ce qu'elle avait prévu.
Oui. Ça va.
Mais toujours moins bien que d'être avec nous.
Oui.
Alors du coup, tout à l'heure, on a écouté le micro-trottoir et on a discuté un petit peu de ce qu'on avait retenu. Et du coup, est-ce que ça m'intéresserait que vous répétiez Déborah et Farah, ce que vous avez retenu du micro-trottoir?
Bah, il y avait plusieurs personnes qui étaient qui disaient de différentes choses. Il y en a qui étaient témoins, il y en a qui étaient victimes, il y en a qui étaient tous contre, on va dire, sur le racisme. Ils n'ont pas dit quelque chose d'autre, en fait.
Et c'est quoi le constat que tu as fait, justement, par rapport aux personnes qu'on a interrogées sur la question de témoins et victimes?
Et bah, il y avait plus de témoins que de victimes. En fait, dans la place Bellevue, il y avait plusieurs victimes. Et dans la, au château de Rezé, il y en avait plus des témoins.
Et toi, Déborah, c'était quoi qui t'avait marqué déjà?
Que les personnes disaient plus qu'ils savaient pas parce qu'ils n'étaient pas racistes. Mais ici, par exemple, ils ne disaient pas ça. Ils disaient, je ne sais même plus ce qu'ils disaient.
Bah, ils disaient pour eux, c'était quoi le racisme?
Oui, c'est ça.
Et toi, Amadou, t'as fait un constat aussi en écoutant le micro-trottoir par rapport du rapport des gens avec la France?
Ils ont dit que la France est un pays qui accueille tout le monde.
Bah maintenant, on va écouter l'interview de Yacine. Son métier, c'est dessinateur de presse. Et avec lui, on a parlé de son métier et du droit à la caricature.
Bonne écoute.
Je m'appelle Farah Bouberda, je suis en 6e, j'ai 11 ans et j'habite au château de Rezé.
Je m'appelle Miral Mesri, je suis en CM2 à l'école Maxime Marchand et j'habite au Leroux-Bottereau.
Je m'appelle Samy Benabd, j'ai 11 ans et demi, je suis en 6e et j'habite à La Jaguère.
Je m'appelle Ingrid Zeymana, j'ai 11 ans, je suis au collège Salvador Allende et je suis en 6e.
Moi je m'appelle Amadou, j'ai 12 ans, je suis en 6e et j'habite au château de Rezé.
Je m'appelle Déborah, j'ai 11 ans, je suis au château de Rezé, je suis en 6e.
On va commencer les interviews.
Pourquoi fais-tu dessinateur de presse ?
Alors, pour vous expliquer, donc moi je suis dessinateur de presse, je m'appelle Yacine Latrache, j'ai 33 ans, je suis nantais, je suis né à Nantes, j'ai grandi à Nantes, et ensuite je me suis dirigé vers le milieu du dessin. J'ai pas fait d'école dans le milieu artistique, mais je me suis lancé en indépendant, en freelance comme on dit, dans cet univers-là. Et aujourd'hui, en 2022, donc ça fait à peu près 10-15 ans que je fais ça, et je travaille pour le journal Le Monde et pour un journal qui s'appelle Le Franc-Tireur. Et je travaille aussi pour l'émission France 24, tous les vendredis, où on me propose des dessins. Et j'ai aussi, du coup, une activité que j'avais commencé dès le début à mettre en place, en faisant une page dédiée à l'actualité sur les réseaux sociaux. Donc oui. J'ai grandi avec une passion très jeune, je crois que j'avais 6 ans à l'époque, j'avais dû faire le mur de l'école d'entrée de Jean Zay, l'école primaire. C'était plutôt bien fait pour mon âge. Du coup, depuis tout petit, je dessine dans ma chambre. Alors, du coup, mon maître, c'est Son Goku. Moi, j'ai commencé à le représenter très jeune, j'étais fan de Dragon Ball à l'époque. Donc, dans les années 90, j'ai grandi avec les mangas. Donc, j'ai une culture du comics, de la BD et du manga. J'ai commencé à dessiner sur mes cahiers. Et en fait, je m'amusais à dessiner la tête des profs. Donc, à chaque fois, sur tous mes cahiers, il y avait plein de visages. À chaque fois. Et je dessinais aussi mes camarades de classe. Et en fait, c'est peut-être pour ça que je suis à l'aise aujourd'hui avec la caricature. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des petits dessins comme ça avec des idées. Mais j'étais pas tout de suite encore. Ça m'a pris du temps avant de savoir que je faisais du dessin de presse. Et en 2011, j'ai eu un accident de foot et du coup, j'ai pas pu travailler pendant un bout de temps et j'ai repris le dessin. Et j'ai fait des rencontres, j'ai fait des expositions et jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas arrêté de dessiner. Et du coup, j'ai orienté mon travail autour du dessin de presse parce que ça me paraît important que si on utilise l'art en général pour faire passer des messages, ça me plaît plus que faire de l'art juste pour décorer.
C'est quoi le droit à la caricature pour toi ?
Le droit à la caricature pour moi, c'est justement de permettre à l'esprit humain de bien fonctionner. Si je vous demandais à quoi ça sert l'humour ?
Ça sert à faire rigoler les gens, à rendre heureux les gens.
À rendre heureux, ouais.
Pour des gens, ça rigole, mais pour la victime, des fois, elle est pas contente.
Alors je dirais que je pense que tout le monde sait que ça fait de se sentir humilié. Pour moi, l'humour, ça sert à une chose. Par exemple, dans mon travail, on dit que ça sert à dédramatiser. Après, c'est un sujet à faire avec grande précaution, parce que parfois, ceux qui ne sont pas habitués à utiliser l'esprit critique pour savoir justement si c'est drôle ou si c'est quelque chose qui relève plus de l'humiliation, et bien là, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, il faut continuer à aller chercher encore plus loin votre esprit critique. Parce que là, ça va vous nuire plus tard, parce que vous ne serez pas gagnant sur votre personnalité. Et en fait, plus on est capable de faire de l'humour, ça veut dire que pour moi, on est encore plus libre. Et je pense qu'on sait toujours pas qui est le plus drôle sur Terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise le monopole du rire. Il faut tous les jours l'inventer. Et c'est chaque génération l'invente. Si vous regardez un sketch des années 60, vous allez comprendre que ce n'est pas le même humour qu'aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut rire sur des critiques de religion ?
C'est une bonne question. Je pense que moi, on peut rire de tout. Hein. Je peux vous confier que moi, je suis de culture et de tradition musulmane. Donc, j'ai eu la chance de découvrir deux cultures, la culture marocaine et la culture française. Donc, grâce à ça, j'ai pu avoir un esprit critique encore plus large. Et donc, sur ce sujet-là, vous connaissez bien les épisodes qu'il y a eu, par exemple, avec Charlie Hebdo, avec Samuel Paty. Il y a eu plein de cas similaires où des gens qui voulaient faire un dessin, une musique sur les religions se sont retrouvés soit morts, soit emprisonnés, soit disparus. Alors, je me dis que je me sens entièrement libre et que finalement, je dis que ma confession à moi, elle est tellement intime qu'elle ne peut pas heurter le monde. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas ça ne peut pas s'impliquer dans le monde.
Pourquoi c'est important de continuer à faire du dessin de presse?
Si vous prenez, je vous fais une métaphore, vous voyez c'est quoi un thermomètre? Vous voyez l'image que ça a? Quand c'est le thermomètre, il est à fond, tout est rouge, hein, d'accord? Et bah dites-vous bien que la liberté d'expression, si on devait mettre un thermomètre sur la planète, et bah il faudrait qu'il soit toujours à fond pour qu'on puisse avoir le maximum d'échanges. Parce que si on n'a pas ces échanges-là, les gens vont rester campés sur leur position. Et je pense que c'est ce qu'il y a de pire dans le monde, c'est que rien n'évolue. Et jamais perdre l'envie de progresser. Et plus il y aura de dessinateurs de presse dans le monde, plus ça voudra dire que le thermomètre de la liberté d'expression existe. Moins dessinateurs de presse dans un pays, plus ça veut dire que la liberté, elle n'existe pas forcément. En tout cas, vous aurez retenu que l'esprit critique, aujourd'hui, on ne pourra plus jamais l'oublier, c'est inscrit dans vos mémoires, c'est mort, maintenant. Et que à chaque fois que vous verrez une image, avant de trouver la réponse, prenez un petit peu de temps pour regarder tous les détails, faites-vous une idée, et ensuite, échangez. Pensez pas forcément tout de suite au premier degré, pensez toujours au deuxième degré. Derrière une image, il y a toujours un message. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
Merci beaucoup Yacine, franchement c'était passionnant. Je pense qu'on peut t'applaudir.
Ouais.
Bravo. Bravo. Merci.
Vous êtes bien sur Jet FM dans l'émission du Sonolab. On est avec Amadou, Ingrid, Déborah, Lucie, Miral, Ranim, Farah. Et on vient d'écouter l'interview de Yacine. Alors là, ça a été réduit en 7 minutes, mais vous l'avez rencontré pendant une heure. Et du coup, alors, mis à part le fait qu'il est très bavard et que c'était long, peut-être vous pourriez me dire ce que vous avez retenu.
Il avait parlé des critiques. Bah, il préfère qu'on critique son travail pour qu'il avance.
Il nous a expliqué plein de mots comme un dictionnaire.
Je trouve qu'il parle hyper bien et tout. Harry nous a expliqué son métier, qui est un métier assez difficile, même si on penserait que caricature, on est dans son bureau tranquille. Mais en fait, non, c'est un métier de combat. Gros cœur sur Yacine.
Moi, j'ai retenu, c'était trop bien. J'ai retenu qu'il y avait le droit de la caricature.
Et puis, ça nous a appris des choses.
Et ça t'a appris quoi?
Bah, que quand il fait des caricatures, c'est pas pour rien. Il fait toujours des caricatures de l'actualité.
Il fait des caricatures des moments tristes ou gênants. Et il essaye de le rendre un peu rigolo ou il représente, mais pas tout à fait comme ça.
Effectivement, on a rencontré qui après?
François.
François, c'est une personne qui aide les gens qui ont été victimes de racisme.
Vous vous souvenez du nom de son association?
Elle rappe. Et maintenant, nous allons écouter la super interview de François, c'est à toi.
Sur GTFM 91.2.
Bonjour, je m'appelle Miral. Je vais commencer par les deux premières questions. C'est quoi votre association?
Alors, l'association s'appelle le MRAP. MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
Quelles sont vos missions?
Alors nous, on a pour objectif de contribuer à ce qu'il n'y ait plus de racisme dans la société, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité.
Depuis combien de temps faites-vous partie de l'association?
Il y a très longtemps, j'avais 18 ans peu. C'est comme ça. C'est une association qui a été créée il y a très longtemps aussi, puisqu'elle date de 1949, mais elle a été créée par d'anciens résistants et puis aussi par d'anciens déportés, notamment des déportés juifs qui sont revenus ou quand ils ne sont pas revenus, eh bien c'est leur famille qui ont contribué à la création du MRAP.
Pourquoi vous êtes engagé dans cette association?
C'est sans doute mon éducation qui m'a apporté peut-être à m'intéresser à des personnes différentes, enfin bon. Et un certain nombre de valeurs, comme disait Yacine, lui-même il s'est engagé dans le dessin, mais pas uniquement parce qu'il était doué en dessin, mais aussi parce qu'il avait envie de... Il se trouve aussi que, pour différentes raisons, j'ai été amené à connaître un peu mieux ce qu'on appelle les gens du voyage. Moi, ça m'a un peu éveillé, ça m'a donné envie de me battre contre le racisme, voilà. Puis j'étais sensible aussi à ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment le fait que des personnes ont été déportées et ont été exterminées parce qu'elles étaient juives.
Avez-vous des situations qui reviennent fréquemment?
Eh bien, on fait des permanences où des personnes peuvent donc venir pour dire qu'ils ont été victimes ou qu'ils s'estiment victimes de racisme, de discrimination, pour des raisons qui tiennent à leur origine, à leur religion, à leur couleur de peau. Et donc, on les écoute et on voit avec eux quelle est la question qui se pose. C'est très important d'écouter les gens qui ont été victimes parce que... Mais à chaque fois, on peut constater que les personnes sont souvent très blessées quand on les attaque sur des questions liées à leur origine, par exemple.
Pourquoi les gens qui sont migrants, ils les mettent dans les cités et les gens qui sont pas migrants, ils sont dans les maisons, alors que les gens qui sont migrants, bah, ils sont dans les cités, ils sont dans les immeubles où il y a des rats.
Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on met dans des quartiers spécifiques, par exemple, certaines populations ? Alors, ça peut être le fait qu'ils soient migrants. C'est souvent le fait aussi que ce sont des populations peut-être moins riches et qui ne peuvent pas tout de suite accéder à un logement en maison, par exemple. C'est souvent lié aussi à la condition sociale. Hein. Mais quelquefois, quand on arrive, on est obligé de commencer tout un parcours professionnel. On parlait de ça des premiers immigrés qui sont arrivés, qui souvent étaient dans des foyers, dans des logements insalubres, etc. Et puis, alors c'est ce que nous, on appelle, c'est un grand mot, la discrimination systémique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément très attention, mais effectivement, on parque des gens à raison de leur origine ou de ce fait-là. Et ça, c'est une vraie question. Et puis, il se trouve que moi, je m'y intéresse aussi. Il y a aussi des gens qui vivent dans ce qu'on appelle des bidonvilles.
Moi, d'ailleurs, j'ai découvert que Nantes, en fait, c'est une des villes où il y a le plus de bidonvilles en France, avant Marseille. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre qu'il y avait 52 bidonvilles autour de la ville de Nantes. Et je me demandais si vous pouviez en dire un peu quelque chose.
Alors, il y a effectivement une cinquantaine de bidonvilles autour de Nantes. Ça fait à peu près 2 à 3 000 personnes. Et alors que sur la France, on considère qu'il y a actuellement 20 000 personnes en bidonville. Et donc Nantes est effectivement, avec la région parisienne, Marseille, Lille, Nantes est, je crois, une des premières agglomérations avec ces populations. Sachant que, je parle de la Roumanie parce que la plupart viennent de Roumanie, on a souvent une image très défavorable. On voit des femmes qui mendient, par exemple, et on a l'impression qu'ils font rien. En fait, s'ils sont venus ici, ce sont ce qu'on appelle des migrants économiques. C'est-à-dire qu'ils sont venus, c'est parce qu'ils connaissent souvent la misère dans leur pays. Ils sont rejetés depuis des siècles. On va présenter une exposition au château de Nantes là-dessus. Leurs ancêtres ont été esclaves pendant 5 siècles, personne ne connaît cette histoire-là. C'est une histoire complètement négligée. Et donc, ils ont été méprisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme les Juifs, beaucoup ont été victimes de déportations et même d'extermination. Et du coup, ils viennent parce qu'ici aussi, il y a besoin de beaucoup de travail dans le maraîchage. D'autres travaillent dans des abattoirs qui sont souvent dans des conditions très difficiles. D'autres dans des services pour faire le nettoyage, etc. Mais il y a une bonne partie d'entre eux qui ont un travail, qui ont même des contrats. Et ça, on ne le sait pas forcément. Mais ils vivent dans des mauvaises conditions, dans les bidonvilles. Sachant que quand on voit un bidonville, et c'est vrai que c'est peut-être difficile de vivre à proximité d'un bidonville parce que c'est d'abord difficile pour les gens qui y vivent. Les enfants qui sont scolarisés, ils sont souvent obligés d'aller à l'école, pas forcément à proximité, parce que déjà, certaines, là, il y a actuellement... Des familles à Sautron, par exemple, ben, la mairie de Sautron, alors que la loi oblige à accueillir ses enfants, les refuse. Il y a des tas de raisons, hein. Ce n'est pas par racisme directement, mais c'est parce qu'il n'y a pas de place, parce que ceci, parce que cela. Bon. Alors que la loi oblige à accueillir ses enfants. Il ne faut pas juger sur l'apparence et qu'il ne faut pas non plus généraliser. Certes, il y a sans doute des gens qui, par stratégie de survie, peuvent faire des actes de délinquance, ou comme il y en a partout. Mais il ne faut jamais généraliser.
Est-ce que la loi est la même pour tout le monde ?
Normalement, la loi est la même pour tout le monde. Et justement, à propos de la loi, Yacine a dit quelque chose d'intéressant par rapport à la liberté, ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est-à-dire que jusqu'où on peut aller dans la liberté d'expression ? Est-ce qu'un dessin, on peut tout dire dans un dessin ? Alors, il a très bien répondu à sa façon par rapport aux critiques éventuelles des religions, lui, sa façon dont il perçoit les choses, etc. Il se trouve qu'en France, on a la liberté d'expression. C'est même une loi très ancienne, elle date de 1881, la loi sur la liberté de la presse. Il n'y a pas ça dans tous les pays, mais en France, on a ça. Et si Yacine et d'autres dessinateurs peuvent dessiner, c'est aussi, et heureusement, il a dit qu'il fallait exercer son esprit critique, etc., c'est aussi parce qu'il y a cette loi sur la liberté d'expression. En France, on peut quasiment tout dire. Mais il y a des limites. Et ces limites, qui sont aussi prévues par la loi, ça concerne justement le racisme, les discriminations, etc. Et nous, au MRAP, on est un peu à l'origine d'une loi qui a modifié la loi de 1881. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est une loi de 1972 qui prévoit que les idées racistes, l'expression du racisme, doit être punie et que le racisme n'est pas une opinion parmi d'autres, mais c'est un délit. Quand certains hommes politiques profèrent des idées racistes, eh bien, ils peuvent être punis. Et ce monsieur dont le nom commence par un Z, eh bien, a d'ailleurs été puni à plusieurs reprises, ce qui ne l'empêche pas de se présenter aux élections présidentielles.
Il y a des gens qui mettent des années pour avoir la demande d'asile et ils sont là à vivre dehors. Donc, je ne comprends pas pourquoi on donnerait pas les papiers français parce qu'ils ne sont pas venus là pour rien. Ils sont venus pour chercher un travail.
Les lois sont malgré tout assez dures. Et puis, le comportement ça se passe au niveau des préfectures. Les préfectures dépendent du gouvernement. Et il faut bien dire, depuis un certain nombre d'années, les politiques ne sont pas des politiques d'accueil. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Et donc, effectivement, il y a malheureusement beaucoup de situations qui n'aboutissent pas. Pour être quand même positif, c'est vrai, il y a beaucoup de difficultés. Et sur Nantes, il y a beaucoup de jeunes. Dans ce cas-là, il y a aussi des familles, des gens plus âgés. Mais donc, c'est un peu le rôle des associations de faire en sorte que de régulariser, de faire pression sur les gouvernements, etc. Bon, c'est pas facile, oui. Mais tu as très bien dit les choses.
En fait, moi, je dis que la loi n'est pas la même pour tout le monde parce qu'ils disent que la France, c'est égalité, alors qu'il y en a qui vivent dehors et il y en a qui vivent dans des maisons.
C'est pour ça qu'il faut des associations ou des syndicats ou d'autres, qu'il faut se grouper pour améliorer, parce que des fois les lois sont pas mauvaises en soi, mais elles sont pas toujours non plus appliquées. Mais oui, c'est vrai que malheureusement, liberté, égalité, fraternité, c'est un idéal, mais il faut se battre tous les jours. Chacun à son niveau, moi au mien, vous, même à votre âge, pour garder ces valeurs-là. Et je crois que c'est ce que vous faites là, c'est bien.
C'est parti, on va au parc.
Il y aura plein de choses. Let's go.
Let's go. Venez, on est en vacances. Venez nous suivre.
Marchez avec nous, là, on a fait un, deux, on va compter les pas.
Regardez comme il fait beau. Ah bah nous, vous pouvez pas voir.
Tu peux décrire le beau temps.
Imagine, oh, il fait bleu avec un soleil.
Mais imagine, nous on écoute, nous quand on parle, il fait beau, mais quand ils écoutent, eux, il pleut.
Ah, c'est trop drôle.
Le seum.
Il n'y a pas trop de nuages.
En vrai, il est bleu, mais pas trop bleu. Il y a un petit peu de nuages, mais un petit peu. Hein.
Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le ciel?
Des avions.
Des traces d'avions.
On vient d'écouter l'interview de François. Ça y est, les auditeurs, ils viennent de l'entendre. Du coup, est-ce qu'on peut faire comme pour Yacine? Juste vous dites en un mot, une phrase, ce que vous avez retenu de la rencontre avec François.
Ils aident à faire l'asile pour les familles.
La chose que j'ai retenue, c'est qu'il n'y avait pas de jeunes qui étaient à l'association. Il n'y avait que des, on va dire des personnes âgées, genre des adultes.
Et en fait, il aide les personnes, les jeunes comme les vieux, à remplir des dossiers.
Un peu, pour, c'est un peu ça.
Pour donner l'asile, je crois, ou quelque chose comme ça.
Et toi, qu'est-ce que t'as retenu? Parce que t'as posé beaucoup de questions pendant cette interview à Madou avec François. Qu'est-ce que t'as retenu de cette rencontre?
Parce que la loi est égalité pour tout le monde.
Et toi, t'en as retenu quoi?
Non, c'était pas égalité pour tout le monde.
Et qu'est-ce qu'il a dit exactement? Que vu que c'était pas la même pour tout le monde, qu'est-ce qu'il fallait faire pour obtenir que ce soit la même pour tout le monde?
Fallait que se battre.
Il y a un autre atelier dont on n'a pas parlé et que vous avez quand même vachement aimé.
C'est
le générique.
C'est nous qui l'avons fait, tout, même les sons, comme la guitare.
Et on a fait une histoire aussi d'une jeune fille qui a 13 ans, qui est accepter moins d'actes racistes.
Ah bah merci Déborah pour cette transition, parce qu'effectivement c'est ce qu'on va écouter pour la fin de notre émission. On va écouter cette histoire que vous avez inventée.
Musique aussi.
Ah non.
Le jour se lève. On est lundi 24 février 2014. Il est 10h05. Nous sommes au collège Salvador Allende de Rosé. Fatima a 13 ans. Elle est en 4e. C'est une fille solitaire, fragile, timide, gentille et émotive.
Ce matin-là, pendant la récréation, elle était au CDI. Comme d'habitude, elle sort son livre pour le ranger dans le bac. Et soudain, elle entend des cris dans le couloir. Curieuse, elle prend les escaliers pour aller au premier étage.
Et la stupeur, elle voit un garçon, Sasuke, accroupi dans un coin, en train de se faire tabasser par 4 autres camarades. Pendant son calvaire, ses agresseurs se sont permis de l'insulter, de jaune d'œuf, de pollueur, lui ont clamé de retourner dans son pays avec ses affaires made in China.
Fatima ressent de la peur, de la peine et de la rage, de la haine envers ses camarades et de la pitié pour Sasuke. Mais elle n'ose pas agir car elle a peur que le sort de Sasuke ne bascule sur elle.
4 jours plus tard, vendredi soir, elle décide de prendre son courage à deux mains. Elle décide d'aller voir la psy du collège pour en parler. Les agresseurs seront sanctionnés d'une exclusion jusqu'à la fin de l'année. Les parents de Sasuke portent plainte.
Fatima pleure de soulagement d'avoir dénoncé le racisme. Sasuke est vraiment ému et remercie Fatima pour son geste. Car ce calvaire aurait pu durer.
Du coup, bah, ça y est, l'émission, elle est finie.
Oh mince, alors, on se retrouve pour une prochaine fois.
Oh mince, alors.
Bon, peut-être on peut se dire au revoir. Hein, peut-être on peut se dire au revoir. On dit au revoir.
Ciao.
Aux
auditeurs. Au revoir. Et abonnez-vous sur mon compte Miral Messri, même si j'ai aucun compte.
JTFM, c'est le meilleur studio de radio.
JTFM 91.2. JTFM 91.2. Ça, c'est le générique de la fin. Je dirais au revoir.
Ici ça tabou, le racisme m'a mabou. Si je viens en parler, c'est pour pas que ça soit tabou. On est tous des frères et des sœurs, tous solidaires, quelle que soit notre couleur.
Il faut aimer les gens, simplement comme ils sont. Ne pas avoir peur de leur donner de l'attention. Entre jeunes et vieux, entre filles et garçons, la discrimination n'aura jamais raison. Qu'ils soient noirs ou blancs, il ne faut pas juger leur style. J'aime pas les gens qui foncent leurs sourcils. Juste parce que les étrangers les dérangent, on doit apprendre à vivre heureux dans le mélange.
Fato au micro, je viens dénoncer le racisme. Ce comportement est une bêtise à 2 centimes. C'est important de dire que c'est pas bien de critiquer. Si tu ne le sais pas, alors laisse-moi te l'expliquer.
Mama Isada, paru au combat contre les cisras. Nous on baisse par les bras.
Allez, allez, ouais, je suis réaliste. Si je t'avoue que j'aime pas les racistes. Allez, vas-y, je les règle de la liste. Car je t'avoue, je suis le prince Ali.
Noir, blanc, métis, on est pareil. Même dans le noir, on brille comme le soleil.
La gentillesse, c'est ça qui nous enseigne. Toutes les cultures, on forme un arc-en-ciel.
Je m'appelle Mokhtar, je suis tard, mais pas raciste. Et sur la piste, je réalise. Je m'appelle Mokhtar, je suis tard, mais pas raciste. Je suis un artiste et optimiste.
Tout le monde a s'aimer, pourquoi s'insulter? Ceux qui font du mal, il faut pas les imiter. Parce que c'est pas bien, on est tel qu'on est. La Chalina, maintenant tu me connais.
Ouais! Cause des préjugés, trop de cœurs saines. Le racisme est présent sur trop de chaînes. La haine ne mène qu'à la guerre. Et la guerre ne mène qu'à la peine. Peine.